Et j'aimerais continuer ma série de messages dans l'épître aux Éphésiens. Elle a été interrompue, mais c'est pas grave. On y revient avec plus de joie. Et nous sommes dans l'épître de Paul aux Éphésiens, à la fin du chapitre 4, à partir du verset 29. Éphésiens, chapitre 4, verset 29. Dans le dernier message, j'avais parlé de l'importance de changer de costume. Vous vous rappelez peut-être, si vous étiez là, que si je suis devenu un enfant de Dieu, si j'ai reçu l'esprit de Christ, l'esprit de Dieu, alors je dois avoir une nouvelle vie, un nouveau comportement. Je dois me débarrasser de mes vieilles habitudes, de mon fonctionnement ancien. Et je dois revêtir l'homme nouveau, la femme nouvelle, créé par Dieu dans mon cœur. Et c'est pour ça qu'il disait dans les versets précédents, hein, de revêtir l'homme nouveau, verset 24 du chapitre 4. Et aujourd'hui, nous allons voir comment cet homme nouveau, cette femme nouvelle, se manifeste quand on est près de Dieu. Et nous allons voir des choses pratiques et concrètes, parce que la foi a toujours un effet. La foi n'est pas quelque chose d'intellectuel. La foi change la vie, le comportement, l'attitude, la pensée même, les désirs, la volonté. Et je vais lire donc Éphésiens 4, 29 et suivant. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Devenez donc les imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés, et marchez dans l'amour à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Que la débauche, ni aucune impureté, ni la cupidité ne soient pas même nommées parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints. Qu'on n'entende ni paroles grossières, ni propos insensés ou équivoques, choses qui sont contraires à la bienséance, qu'on entende plutôt des actions de grâce. Car sachez-le bien, aucun débauché ou impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Et il commence donc avec la bouche, qui ne sort de votre bouche, verset 29, aucune parole mauvaise, et il finit avec la bouche aussi, verset 4 du chapitre 5, qu'on n'entende ni paroles grossières, ni propos insensés ou équivoques. Et c'est notre Seigneur Jésus qui a dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Qu'est-ce que ça veut dire cette phrase? Ça veut dire que mon cœur va faire sortir par la bouche ce qu'il contient. Si mon cœur contient des choses sales, qu'est-ce qui va sortir par ma bouche? Des choses sales. Si mon cœur contient de la méchanceté, qu'est-ce qui va sortir de la méchanceté? La bouche est l'expression du cœur. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Et laisse-moi écouter ce que tu dis et je saurai où tu en es. Le cœur, on ne peut pas le voir, le cœur des hommes. Il n'y a que le Seigneur Jésus qui lisait dans le cœur et dans les pensées, hein, parce qu'il était Dieu. Nous, on ne peut pas lire dans le cœur. Par contre, on peut écouter les paroles. Alors le but n'est pas bien sûr de se juger les uns les autres, mais de se juger soi-même, de dire « quelles paroles sortent de ma bouche ?» Ici, on voit qu'on peut communiquer une grâce par la bouche. C'est merveilleux, ça. On peut faire du bien de toutes sortes de façons, mais on peut faire du bien avec sa bouche. On peut bénir quelqu'un. Bénir, ça veut dire quoi? Littéralement, ça veut dire « dire du bien ». Peut encourager quelqu'un. Et ça ne veut pas dire flatter. Flatter, ce n'est pas bénir. Flatter, c'est hypocrite et mensonger, hein. Mais bénir, c'est dire du bien à la personne pour lui dire qu'on l'aime, lui dire qu'on veut le meilleur pour cette personne. Dieu nous a donné un langage évolué avec des mots. Les animaux ont un langage, les animaux communiquent, mais pas avec des mots. Ils n'ont pas de grammaire, ils n'ont pas de langue, ils n'ont pas de traduction. L'être humain est au-dessus du règne animal parce que Dieu l'a voulu ainsi et parce que, entre autres, il a des mots. Et ces mots peuvent bénir ou peuvent maudire. Avec notre bouche, on peut faire du bien, on peut faire beaucoup de mal avec la bouche, avec la langue. Énormément de mal, parfois plus qu'avec une arme. Regardez les dictateurs et les gourous des sectes, hein, avec leur bouche, ils sont capables de choses terribles. Dieu nous a donné ce langage, c'est pour qu'on l'utilise pour le bien. Il y a des gens qui ont peu de mots, mais avec le peu de mots, ils arrivent à vous guérir, à vous consoler, à vous élever. Et il y en a qui ont beaucoup de mots, mais il y a beaucoup de choses à jeter dans ce qu'ils disent. La Bible dit dans le Proverbe 10:19, « Celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché. » Et comme on dit, hein, il faut savoir tourner la langue sept fois dans sa bouche. Ce n'est pas dans la Bible, mais c'est un bon conseil. Est-ce que mes paroles font du bien? Est-ce que je vais communiquer une grâce? Avant de parler, réfléchissons un dixième de seconde. Ce que je vais dire là, est-ce que ça va être encourageant? Est-ce que ça va faire du bien? Même entre chrétiens, on peut se dire, oh ben, on est tous frères et sœurs, on peut dire ce qu'on veut, hein, de toute façon. Et parfois, on fait des blagues douteuses. On se moque de la personne, hein, c'est pas méchant, mais en se moquant, on la blesse. Le résultat, c'est que ça n'a servi à rien, et même ça a blessé la personne. Il faut apprendre à utiliser notre langue pour faire du bien. Et ça, c'est le Saint-Esprit qui fait ça. Naturellement, nous utilisons notre langue pour tirer sur les autres. Ça, on est très fort pour ça. C'est très facile d'utiliser des mots blessants et des paroles qui font du mal. Mais Dieu veut qu'on utilise notre nouvelle langue. Notre langue a été sanctifiée par le Saint-Esprit. Et quand elle est sanctifiée, elle peut faire du bien et communiquer une grâce, avoir du sel, comme dit la Bible. Et puis, il dit, hein, pas de paroles grossières, insensées ou équivoques. J'étais frappé quand je n'étais pas croyant, dans ma jeunesse, j'utilisais des mots grossiers très facilement. Ça ne me gênait pas parce que tout le monde le faisait. Et dans ma bouche, ça sortait facilement. Et quand je suis devenu chrétien, quand j'ai reçu Jésus-Christ dans ma vie, ça ne sortait plus comme avant. Et surtout, je me disais, mais c'est sale. Ça n'a rien à faire avec Dieu. Il y a Dieu et puis il y a ces paroles-là. Ça n'a rien à faire. Il faut que ça aussi se soit changé. Et en fait, c'est Dieu qui a changé mon langage. Ce n'est même pas moi qui ai fait un tri ou un effort. C'est que naturellement, mon cœur était renouvelé. Et ce qui sortait, c'était des mots eh bien, propres, si on peut dire. Et pas grossier. Et aussi, les paroles équivoques, hein, c'est des blagues douteuses, comme j'ai dit, ou des allusions graveleuses, ou des choses vraiment lamentables qui n'élèvent pas les gens, mais qui les abaissent plutôt. C'est Jacques, l'apôtre, qui a dit « Nous tombons tous de plusieurs manières. Mais si quelqu'un ne tombe pas en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride. Celui qui est capable d'avoir une langue qui bénit tout le temps, il est parfait. C'est-à-dire, c'est un chrétien impeccable. Il est arrivé à maturité. La langue, hein, c'est vraiment le plus dur à maîtriser dans la vie. Et il faut apprendre à la maîtriser. Ça ne vient pas toujours tout seul. Il faut dire, bon, ce dimanche, je vais à l'église. Qu'est-ce que je peux dire d'édifiant à quelqu'un? Quand on va manger ensemble, on va discuter. Est-ce que je pourrais avoir un sujet de discussion qui va être une bénédiction? Voilà. De quoi est-ce que je vais parler dans le repas? Est-ce que je vais dire tout ce qui me passe par la tête, tout ce que j'ai vu cette semaine et qui, n'a, pour 99%, n'a aucun intérêt? Ou est-ce que je vais essayer de trouver quelque chose d'édifiant, d'encourageant? Et peut-être parler avec une personne qui a un besoin. On ne sait pas les besoins des autres toujours. Mais quand on est rempli du Seigneur, vous allez dire une parole qui va faire du bien à l'autre sans que vous ne vous en rendiez compte. Il y a des personnes comme ça qui ont ce don d'encourager les autres. Et après, la personne dit, mais tu sais, cette parole, cette phrase que tu as dit, ça m'a fait du bien, ça m'a encouragé. Ah bon, mais je ne savais pas, moi je discutais. Parce que ça sort. Quand l'Esprit de Dieu sort, la parole de Dieu sort, quand on connaît la Bible, quand on la mémorise, hein, comme on le fait le dimanche, il y a des versets qui sortent. Notre frère, hein, lui-même, lorsqu'il a témoigné tout à l'heure, avait des versets qui sont sortis. Notre frère Abdenour, hein, il partageait des versets dans texto. Est-ce que vous envoyez des versets en texto ou est-ce que vous envoyez des blagues? Et puis, il continue après la langue et la bouche, les paroles. Au verset 30 du chapitre 4, il dit « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés. » Dieu nous a donné le Saint-Esprit, c'est-à-dire que lorsque nous avons accepté le Seigneur Jésus, nous avons reçu l'Esprit de Jésus en nous. Dieu vient habiter en nous. On ne réalise pas toujours ça. Dieu habitait au milieu du peuple d'Israël dans l'Ancien Testament, dans le temple, dans le lieu très saint. Aujourd'hui, le lieu très saint, c'est quoi? C'est le cœur du croyant. Il dit, vous êtes le temple du Saint-Esprit, vous qui croyez. Je suis un temple ambulant. Est-ce qu'on vit comme un temple? C'est comme quelqu'un qui disait, il n'y a pas de verset dans la Bible qui nous dise de ne pas fumer. Alors moi, je continue à fumer, ça ne me dérange pas, je suis chrétien et je fume. Alors un pasteur un jour lui a dit, est-ce que tu fumes dans les temples ou dans les églises? Il a dit non, j'éteins ma cigarette dehors. Et pourquoi? Parce que c'est un lieu sacré, c'est un temple, c'est l'église, quoi. D'accord ? Est-ce que tu savais que ton corps est le temple de Dieu ? Ah oui ? Et donc, pourquoi tu fumes dans ton temple ? Oui, c'est une façon de voir la chose, hein ? Mon corps est le temple du Saint-Esprit. Qu'est-ce que je fais avec ce corps ? Qu'est-ce que je fais avec le Saint-Esprit en moi ? Il dit, ne l'attristez pas. On ne le réalise pas toujours, mais le Saint-Esprit, un de ses fruits, c'est la joie. Saint-Esprit est joyeux. On a cette idée, nous, que la sainteté est forcément triste et grave. Si vous êtes saint, vous tirez une tête de 3 pieds de long et vous avez toujours les sourcils froncés. Non, il y a de la joie dans le Seigneur. Il y a de la joie, comme disait la chanson. Et lorsque nos pensées et nos actions ne sont pas en conformité avec la volonté de Dieu, le Saint-Esprit est attristé. Parce que le Saint-Esprit, notre consolateur, notre compagnon, il est là en nous, c'est Dieu avec nous. Et chaque fois qu'on emmène Dieu quelque part où on ne devrait pas aller, chaque fois qu'on pense ou qu'on dit quelque chose qui est à l'inverse des valeurs de Dieu, le Saint-Esprit est attristé en nous. C'est comme ça qu'il y a des chrétiens tristes. La joie du chrétien, et je ne dis pas la gaieté, je dis la joie, est un signe de bonne santé spirituelle. Un chrétien qui est triste, qui se traîne, c'est qu'il y a quelque chose qui cloche. Le Saint-Esprit est attristé dans sa vie. C'est peut-être un péché, parfois le péché, pas parfois, toujours. Le péché attriste le Saint-Esprit. Tout le temps. Mais quand on a une conscience pure, quand on est près du Seigneur, quand on marche avec lui, il y a une joie. Je ne peux pas m'empêcher de penser au sourire d'Abdenour, hein. Notre frère, il avait une vie difficile. Il était persécuté pour sa foi. Il n'avait pas de papier. Il travaillait très dur, néanmoins, pour gagner un peu d'argent. Et il vivait dans un foyer où il dormait avec d'autres personnes qui fumaient de la drogue, qui faisaient n'importe quoi dans la chambre. Et lui, il devait dormir là. Quelquefois, il n'avait pas de lieu où dormir. Et pourtant, quand on le voyait, il était toujours en train de sourire, de se réjouir. Parce qu'il était en communion avec Dieu. Tout ce qui éteint et vole la joie du Saint-Esprit est néfaste. Ici, il va parler dans la suite de l'amertume. L'amertume, hein, c'est le premier voleur de joie. Quand on est amer, on ne peut plus se réjouir. L'amertume tue la joie. Et il le dit, verset 31, qu'il n'y ait pas d'amertume, d'animosité, de colère, de clameur, de calomnie et toute espèce de méchanceté au milieu de vous. Que tout ça disparaisse au milieu de vous. Qui ? L'Église, hein ? Il n'y a rien de plus terrible lorsque dans l'Église, il y a de la violence, il y a de la calomnie, il y a de la colère, il y a des cris, il y a surtout l'amertume. L'amertume, c'est quelque chose qui ronge les gens, qui vous tue à petit feu. Si vous avez lu Moby Dick quand vous étiez jeune, vous vous rappelez de l'histoire du capitaine Ahab, ou Achab, je ne sais pas comment on dit, qui, un jour, pendant une campagne de pêche, a été blessé, on a dû amputer sa jambe par une baleine, la fameuse Moby Dick, et puis il a décidé depuis ce jour de se venger et de la tuer. Et il était là avec sa jambe de bois, il a réuni une équipe et un bateau, il dit maintenant je vais tuer cette baleine. Et il a vécu dans la haine, dans l'amertume pour cette baleine, qui elle ne faisait que se défendre, elle n'a pas blessé sa jambe volontairement, on l'a attaqué, elle a donné un coup de queue et voilà, bon. Mais lui, il en voulait, il a fini ses jours, il est mort à cause de cette amertume idiote, on peut dire. Mais nous, nous sommes pareils, Ce livre, c'est une allégorie, mais nous aussi, on peut garder de l'amertume qui nous ronge, qui nous détruit. Au lieu de vivre une vie épanouie et positive, on est là à dire oh, « si j'avais ci, si j'avais ça, et pourquoi ci, et pourquoi ça ?» Une fois, il y avait ce reportage sur cet homme qui a inventé les essuie-glaces intermittents. C'était un ingénieur, un bricoleur. Donc, vous savez, le fait que les essuie-glaces soient intermittents, c'est formidable, quand il ne pleut pas beaucoup, c'est bien pratique. Et il l'a présenté à Ford. Et Ford a rejeté son invention, dit non, ça ne sert à rien, c'est nul. Et puis quelques années plus tard, pouf, Ford sort les essuie-glaces intermittents, mais sans lui attribuer l'invention. Alors il a commencé à faire un procès. Et Ford a complètement nié, mais non, on ne vous a jamais vu, on ne vous connaît pas. Et cet homme a passé 12 ans de sa vie dans les procès. 12 ans. Sa femme l'a quitté. Il n'avait pas de travail. Son salon, c'était un tribunal, c'est-à-dire il y avait des dossiers hauts comme ça, comme la taille d'un homme. Et il a perdu 12 ans de sa vie à se battre contre les moulins à vent. Finalement, il a gagné, mais sa victoire est vraiment amère, n'est-ce pas, comme on dit. Ça ne sert à rien d'être dans l'amertume. Ce qui compte, c'est de laisser le Saint-Esprit nous remplir de sa joie, de sa force, de sa sainteté, de son amour, de tous ses fruits. Et s'il y a quelque chose qui vient barrer le fruit, là, qui vient empêcher la source, il faut vite l'enlever. Que je ne me couche pas avec une amertume, avec une jalousie, avec une colère, avec une vengeance, avec je ne sais pas quoi. Notre monde est plein de ces choses-là, que ce soit dans les films, mais aussi dans le monde, dans le travail, dans les familles, dans les couples. L'amertume, les plats qui se mangent froids, vous savez. Ah oui, tu m'as fait ça, tu vas le payer pendant 3 mois. Tu te rappelles, il y a 2 ans, ce que tu m'as dit. Pitié, pitié. Passons à autre chose. Bien sûr, lorsqu'il y a blessure, lorsqu'on se fait du mal, il faut apprendre à se repentir. Ce n'est pas juste à l'autre de pardonner comme ça, toujours, et puis il y en a un qui abuse et l'autre qui pardonne. Mais l'amertume ne guérit rien, ne sert à rien. L'amertume ne permet pas de pardon et de guérison. Et c'est un péché, l'amertume. Ça attriste le Saint-Esprit. Qu'il n'y en ait pas dans l'Église, qu'il n'y en ait pas dans nos familles, dans nos couples. S'il y a de l'amertume dans votre couple, jetez-la le plus vite possible. Verset 32, soyez bons les uns envers les autres, compatissant, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné. L'Esprit de Christ est bon, il fait du bien toujours, il voit le bien, comment je vais faire du bien. Compatissant, il souffre avec, c'est ça le mot compatissant. Il voit la souffrance de l'autre, il n'est pas indifférent à la souffrance de l'autre. Il y a des personnes qui ont très peu de compassion parce qu'ils ont très peu le Saint-Esprit ou pas le Saint-Esprit. Et ils voient les autres souffrir et tout ce qu'ils peuvent dire, c'est « Oh, mais moi aussi, j'ai mes problèmes. » Ça, ce n'est pas la compassion, ça, c'est l'inverse. La compassion, c'est sentir la souffrance. Il y a des personnes qui n'expriment même pas leur souffrance. Ils souffrent, mais ils ne le disent pas. La personne compatissante, elle le sent, elle le voit. Elle souffre avec. C'est ce que notre Seigneur Jésus était sur la terre. Chaque fois qu'il voyait quelqu'un souffrir, il souffrait avec. Il pleurait avec, et c'est pour ça qu'il, comme il était fils de Dieu, qu'il avait tout pouvoir, il guérissait les gens à chaque fois. Et il a guéri tant de gens, il a consolé tant de personnes, il a sauvé tant d'âmes par sa compassion, comme Dieu nous a pardonné en Christ. Dieu ne nous a pas tenus, n'a pas gardé notre culpabilité par-devers lui en disant « Regarde, tu vois ce que tu as fait !» Lorsque nous avons accepté le Seigneur, lorsque nous avons demandé pardon, Dieu nous a gracieusement pardonné parce que Jésus-Christ avait payé notre dette, nos péchés sur la croix. Et Dieu a accepté de nous pardonner totalement. Et nous, on va aller voir le frère ou la sœur et lui dire « Je te pardonnerai jamais !» Et ça attriste le Saint-Esprit dans une église. Le Saint-Esprit est attristé dans les églises par les mauvaises pensées, les mauvaises attitudes des chrétiens. Il ne règne pas la compassion, il ne règne pas la bonté, il ne règne pas le pardon. Bien sûr, on a besoin de se pardonner parce que des fois, on fait des fautes les uns envers les autres. On n'est pas parfait, absolument parfait, donc il faut se pardonner pour avancer. L'amour couvre les fautes pour avancer. C'est pareil, si on s'arrête aux fautes des autres, on n'avance jamais. Ah ben écoute, non, j'accepte pas. Non, alors là, tu m'as fait ça, c'est fini. Terminé. Donc, on est bloqué. Blocage total. Pour avancer, il faut laisser la porte au pardon, à la repentance. Il faut s'encourager. Et puis, au chapitre 5, il dit « Devenez les imitateurs de Dieu, carrément. » Alors là, on se dit, il doit plaisanter sûrement. Moi, je suis un homme, un être humain. Comment je vais imiter Dieu? C'est pas possible. Mais en fait, ce qu'il veut dire là, c'est dans sa façon d'agir. Dieu aurait pu tous nous condamner. Nous méritons d'être condamnés par Dieu. Il aurait pu dire, cette terre est pourrie, je la jette à la poubelle, avec tous ceux qui sont dedans. Et au lieu de faire ça, il est venu lui-même sur cette terre pourrie. En la personne de Jésus. Il a posé ses pieds, il a vécu une vie d'homme sur cette terre pourrie avec ses gens pourris dessus, qui l'ont frappé, rejeté, et il les a aimés. Et il est mort pour nous, des impies. Si Dieu a fait ça, on doit l'imiter. Soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait, a dit Jésus. Pardonnez à vos ennemis. Vous me dites, mais c'est impossible, je ne peux pas le faire. Bien sûr que c'est impossible. C'est impossible à l'être humain, naturel. Mais ce n'est pas impossible au chrétien qui a le Saint-Esprit, qui a l'Esprit de Jésus-Christ. Car si nous avons l'Esprit de Jésus-Christ, nous pouvons avoir le caractère de Jésus-Christ. Sinon, Dieu ne nous demanderait pas toutes ces choses. Dieu, quand il demande quelque chose, c'est qu'on peut le faire par le Saint-Esprit. Et on a le choix. Ou on va imiter Dieu, dans son esprit de grâce, de pardon, de générosité, d'encouragement, où on va imiter Satan. Satan, c'est la violence, la jalousie, l'égoïsme, la critique, le diviseur, le diable, ça veut dire l'accusateur, diabolos, l'accusateur. On imite Dieu ou on imite Satan? On a ce choix. Hein? Et marcher dans l'amour, à l'exemple de Christ qui nous a aimés, et s'est livré lui-même à Dieu pour nous, comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Il fait allusion au sacrifice dans l'Ancien Testament. Et Christ est ce sacrifice, cet agneau de Dieu qui meurt pour nous. Il dit marcher dans l'amour, la charité, l'agapé, cet amour qui se donne. Ici, il y a deux sortes d'amour. Au verset 5, et au verset 3, que la débauche, le mot débauche là, c'est le mot porneia qui a donné le porno. Il y a l'amour de Dieu, agapé, et il y a l'amour porno. Enfin, dans ce passage, il faut choisir quel est l'amour qu'on veut utiliser. Aujourd'hui, la pornographie est en montée, en grande montée. Ça n'arrête pas de monter, ça touche des jeunes de plus en plus jeunes, surtout avec Internet. Et ça a changé les rapports hommes-femmes, ça a changé, ça a donné beaucoup plus de violence dans les couples. et de plus en plus de détraqués dans les rues. Et le chrétien, lui, il doit être totalement séparé de ces choses. Totalement, qu'on ne les nomme même pas parmi vous. Qu'il n'y ait même pas l'once d'un démarrage de pornographie dans nos vies. Ça veut dire qu'il faut consacrer son ordinateur à Dieu. Seigneur, je te consacre mon cœur. On a vu, je te consacre mon porte-monnaie et je te consacre, troisièmement, mon ordinateur. Là, c'est la vraie foi. Jusqu'où va votre foi ? Est-ce que c'est des belles paroles ? Oui, il faut faire ci, il faut être chrétien, il faut être ceci, il faut être cela. Ou est-ce que vous, déjà, vous montrez l'exemple ? Est-ce que vous avez l'amour de Dieu qui se donne aux autres, qui se sacrifie ? Ou est-ce que vous avez l'amour porneia, la débauche ? Et d'ailleurs, avec la débauche, il met la cupidité, c'est intéressant. Cupidité, c'est cet amour immodéré de l'argent. C'est des choses qui vont de pair. Hein. C'est une idolâtrie. La porneia, c'est une idolâtrie du sexe et du corps humain mal placé. Et la cupidité, c'est l'idolâtrie de l'argent. Le chrétien doit être séparé de ces choses. Il doit aimer un seul Dieu, son Dieu, de tout son cœur. Que ces choses ne soient même pas nommées parmi vous, dit le verset 3, ainsi qu'il convient à des saints. Vous avez remarqué que Dieu nous appelle des saints. Dans l'imagerie populaire, le saint, c'est une personne qui a une auréole, qui flotte un peu au-dessus de la terre, qui a une vie particulièrement étrange et extraordinaire, qui donne tout aux autres, qui vit un peu en dehors du monde et qu'on peut vénérer sur une image et qui a été canonisé. Mais dans la Bible, un saint, c'est quelqu'un qui croit en Jésus-Christ. Et il dit, vous êtes appelés saints parce que vous êtes croyants, maintenant il faut marcher comme des saints. Si Dieu m'appelle saint et que je marche comme un débauché, je gâche tout ce que Dieu a fait, tout l'amour de Dieu, je le foule aux pieds. Si Dieu m'appelle saint, c'est par amour, c'est parce qu'il m'a sanctifié, il m'a purifié. Quel cadeau il m'a fait, c'est extraordinaire. Alors à moi de garder cette pureté dans le cœur, dans l'âme, dans la conscience, de marcher comme un saint. Alors voilà tout ce que le Seigneur nous demande, hein, ce sont des défis pour notre foi. Jusqu'où va ta foi ? Est-ce qu'elle va jusque dans ta bouche, dans tes paroles ? Est-ce qu'elle va dans ton comportement avec les autres chrétiens, avec les autres personnes ? Est-ce que tu es quelqu'un qui marche avec le Saint-Esprit, qui est en communion permanente avec le Saint-Esprit, qui est dans la joie du Saint-Esprit ? Ou est-ce que tu es quelqu'un qui est dans la colère, dans l'animosité, l'agressivité, l'amertume ? Est-ce que tu imites Dieu ? Est-ce que tu cherches à copier ton Père céleste, à être comme lui, comme un petit garçon veut faire comme son papa ? Est-ce que tu marches à l'exemple de Christ qui s'est donné pour les autres alors qu'il n'était pas obligé de le faire ? Est-ce que tu marches dans le vrai amour, l'amour qui donne, qui compatit ? Il y avait une femme anglaise qui avait des gros problèmes de santé et elle se plaignait tout le temps. Elle s'appelait Charlotte Elliott. Et un jour, un évangéliste qui s'appelait César Malan est venu lui rendre visite. C'était un Suisse et il a parlé avec elle et elle s'est plainte et elle a déversé son amertume sur cet évangéliste. Mais si Dieu existait, pourquoi je suis affligée de tant de maux, de maladies ? Non, vous me parlez de Dieu, mais Dieu n'est pas bon, Dieu n'existe pas. Et elle était amère et tout ça sortait dans la conversation au point même que les amis qui étaient là étaient très mal à l'aise. Et finalement, l'évangéliste a dit « Laissez-nous seuls tous les deux ». Il a continué à parler avec elle. Au lieu de s'offenser, de se fâcher, il a dit « Madame, vous vous êtes enfermée dans votre amertume. Vous êtes complètement barricadée. Vous ne laissez plus de place à rien. Vous êtes en train de mourir toute seule. » dans votre amertume contre Dieu, contre le monde, contre votre maladie, contre tout ce qui vous arrive. Mais il y a une guérison possible pour vous. Il dit, ah oui, c'est quoi? Mais c'est justement ce Dieu que vous rejetez. Lui, il peut vous guérir, vous délivrer. Il a dit, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut venir à lui tel que vous êtes. Avec votre amertume, votre colère, vos maladies, vos faiblesses, vos problèmes. Et vous lui donnez votre cœur et votre vie. Et vous lui demandez de vous pardonner, de vous libérer. Et cette femme a fait cela. Et plus tard, elle a travaillé dans l'œuvre de Dieu. Et elle a écrit un cantique que nous connaissons bien ici, qui s'appelle « Tel que je suis, sans rien à moi ». C'est un magnifique cantique. « Sinon ton sang versé pour moi, agneau de Dieu, je viens, je viens ». Cette femme qui a écrit ce cantique, elle vivait dans une amertume profonde. Jusqu'au jour où elle a réalisé qu'elle pouvait être sauvée, pardonnée par Dieu, guérie. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est dans ce cas ce matin? Vous êtes coupé avec Dieu, vous êtes séparé, peut-être fâché avec Dieu. Votre vie, tout ce qui sort de votre bouche, hein, c'est des plaintes, des murmures, des critiques, des jugements sur les autres. Vous n'avez pas la joie du Saint-Esprit, vous n'avez pas l'amour de Dieu.